France Culture.
Bonjour à tous, il est 9h. Le Festival de Cannes a rangé son tapis rouge hier soir après deux semaines de compétition marquée par le sacre du cinéaste iranien Jafar Panahi et un certain renouvellement de son palmarès, palmarès que nous décryptera Antoine Guillot. Enquêter sur les violations des droits humains en pleine guerre, un travail essentiel en Ukraine dont se charge l'antenne locale d'Amnesty International. Nous écouterons sa directrice. Les autorités syriennes saluent la levée des sanctions occidentales, un tournant pour un pays exsangue qui espère relancer son économie. Et puis, la renationalisation du rail britannique, comme promis par le Parti travailliste lors de sa campagne. Les compagnies vont revenir dans le giron public 30 ans après la privatisation du secteur. Le 78e Festival de Cannes se referme. La cérémonie de clôture et de remise des prix a eu lieu hier soir. Bonjour Antoine Guillot.
Bonjour Marie-Hélène.
Alors vous nous avez fait vivre ce festival et manifestement, le jury emmené par Juliette Binoche a su voir ce qu'il y avait de meilleur dans cette compétition et dans chacun des films récompensés, dans un palmarès très cohérent, aussi cinéphile que politique, à l'image de cette Palme d'Or, Antoine.
Oui, en effet, Marie-Hélène, la Palme d'Or décernée à un simple accident vient récompenser tout à la fois un film remarquable dans sa frontalité et sa finesse et un cinéaste d'un courage inouï. 28 ans après le goût de la cerise de son maître et ami Abbas Kiarostami, c'est un opposant toujours plus irréductible au régime des Mollahs qui est distingué, malgré depuis 15 ans une interdiction de travailler, de quitter le pays et deux réclusions dans la sinistre prison d'Evin. Jafar Panahi a sans faillir réalisé en clandestinité 6 longs métrages d'une liberté et d'une audace absolue, dont ce film inspiré des 200 jours qu'il a passé dans les geôles iraniennes il y a 2 ans, pendant lesquels a éclaté le mouvement Femme, Vie, Liberté. Comment l'inhumanité du totalitarisme peut contaminer jusqu'à ses victimes, comment s'en libérer, comment vivre ensemble après la chute du régime qu'on pressent imminente, sans devenir soi-même de nouveaux bourreaux, voilà ce qu'explore avec souvent aussi beaucoup d'humour, tout en filmant en arrière-plan une société qui se libère de ses interdits, le cinéaste qui retourne ce dimanche dans un Iran qu'il n'a jamais voulu quitter. En 1997, quand Kiarostami était rentré avec sa palme d'or sous le bras, une foule de nervis du régime l'attendait à l'aéroport pour le lyncher. On ne doute pas que c'est une toute autre population qui fêtera le retour triomphal du très humble Jafar Panahi.
Et pour ce qui est du reste du palmarès, Antoine ?
Ben pour le reste, là encore, le jury a su voir dans les films ce qu'ils avaient de meilleur et extraire de la compétition, malgré évidemment des oublis, un palmarès des plus cohérents. Ils sont récompensés ainsi aux plus hautes places de très grands cinéastes, comme le Danois Joachim Trier, grand prix du jury pour son bergmanien au féminin, Valeur sentimentale, ou le Brésilien Kleber Mendonça Filho, dont le très romanesque et lui aussi politique L'Agent secret est à juste titre doublement primé à la mise en scène et pour son interprète masculin Wagner Moura. On salue encore la magnifique découverte Nadia Meliti, prix d'interprétation féminine, révélée par l'actrice et maintenant totalement cinéaste Afsia Herzi, qui la filme comme une joconde moderne dans La Petite Dernière. Cannes avait vraiment de la gueule cette année.
Merci Antoine Guillot, en direct de Cannes, un festival de Cannes sur lequel nous reviendrons avec l'invité de notre journal de midi et demi, Frédéric Mercier, critique pour la revue Positif et membre du jury de la Caméra d'Or. La rencontre hier soir entre François Bayrou et les représentants des taxis en grève. Le Premier ministre maintient le cap des économies mais annonce que le projet de réforme de la tarification du transport de patients sera retravaillé dès mardi. La guerre en Ukraine à présent, comment enquêter sur les violations des droits humains en plein conflit? C'est la mission de l'antenne ukrainienne d'Amnesty International. L'ONG documente par exemple la situation des militaires et des civils emprisonnés ou encore celle des enfants ukrainiens déportés. Un travail de fond essentiel qui vise à fournir des preuves à la Cour pénale internationale. La directrice d'Amnesty International en Ukraine était de passage en France cette semaine. Lisa Vili l'a rencontrée.
Au cœur du dernier rapport de l'antenne ukrainienne d'Amnesty International, le sort des militaires et des civils emprisonnés par les Russes. Les chercheurs d'Amnesty ont interrogé une centaine d'anciens détenus et de proches de prisonniers qui témoignent des humiliations et des tortures qu'ils ont subies, comme l'isolement total. L'ONG dirigée par Véronique Avelch se bat pour accéder aux prisonniers et maintenir le lien avec leurs proches.
Parfois, pendant 3 ans, ils restent sans aucune nouvelle de chez eux. Ils n'ont aucune idée de ce qui se passe en Ukraine. C'est un moyen de torture qu'utilisent les soldats russes en leur disant que toute leur famille a été tuée. Certains ne savaient même pas pas que leur femme était enceinte et que maintenant ils ont des enfants, alors que c'est quelque chose qui les maintient en vie.
L'équipe de Véronika Velch, reconstituée l'an dernier, enquête partout en Ukraine. La directrice compte sur la communauté internationale pour mettre fin à la guerre le plus rapidement possible.
Pour l'instant, on parle sans qu'il n'y ait aucun résultat. Poutine n'a pas envahi l'Ukraine pour se retirer juste après. Il peut être arrêté, mais nous devons l'arrêter. Et ça n'arrivera pas en discutant indéfiniment avec lui.
Pour juger les crimes dont l'armée russe est accusée, un tribunal spécial va être créé pour la première fois pendant un conflit en cours depuis la Seconde Guerre mondiale.
Et tôt ce matin, de nouveaux bombardements russes ont visé l'Ukraine. Près de 400 drones et missiles, au bilan au moins 12 morts, dont 4 près de Kiev selon les autorités. Des attaques menées quelques heures avant un nouvel échange de prisonniers entre la Russie et l'Ukraine. La défense civile de la bande de Gaza annonce la mort avant-hier dans une frappe israélienne de 9 enfants d'un couple de médecins palestiniens. L'armée israélienne affirme qu'elle visait des personnes soupçonnées d'opérer depuis un bâtiment adjacent et que cette frappe est en cours d'examen. Première étape aujourd'hui au Vietnam de la tournée d'Emmanuel Macron en Asie du Sud-Est. Une nouvelle déclinaison de la stratégie indo-pacifique de la France pour proposer une troisième voie entre Washington et Pékin et défendre ses positions sur les conflits en Ukraine et à Gaza. France Culture, 9h06, après la décision surprise de Donald Trump, l'Union européenne lève à son tour ses sanctions économiques contre la Syrie. Une annonce saluée à Damas comme un tournant, alors que le pays exsangue espère relancer son économie. Mais sur le terrain, entre hausse des prix et salaires précaires, le quotidien reste difficile. Et beaucoup espèrent que la levée des sanctions améliorera la situation. Illustration avec ce reportage de notre correspondant Mohamed Erami auprès des commerçants du sud de Damas.
Dans une ruelle au nord de Damas, cette petite supérette ne désemplit pas. À Boutarek et derrière le comptoir, comme chaque matin, fruits, conserves, produits d'hygiène, mais aussi galères d'approvisionnement, inflation et paiement exclusivement en liquide.
Depuis la chute de l'ancien régime, on a déjà vu plus de produits arriver sur le marché. Avec la levée des sanctions, encore plus d'entreprises syriennes comme étrangères pourront vendre leurs produits en Syrie. Forcément, ça fera baisser les prix et les acheteurs auront plus de choix.
Ici, pas de terminal bancaire, pas de paiement mobile et les employés, souvent sans contrat, sont payés à la semaine en espèces. Mohamed, qui livre les courses à domicile et réapprovisionne les rayons, espère voir sa situation s'améliorer.
Ce qui compte pour moi, c'est d'avoir assez d'argent pour nourrir ma famille. Je suis pour la fin des sanctions, mais surtout en tant que citoyen, je veux arrêter de me demander chaque jour comment je vais m'en sortir demain.
Mais pour que les échanges reprennent vraiment, il faudra plus qu'une levée des sanctions. La sécurité reste la condition essentielle. Avant la guerre, Damas commerçait avec Alep, la côte. Aujourd'hui, tout ça a ralenti ou disparu.
Et dans ce contexte de rapprochement avec l'Occident, les autorités syriennes ont annoncé hier une réorganisation du ministère de l'Intérieur, notamment pour lutter contre les trafics de drogue et d'êtres humains. C'était une grande promesse de campagne du Parti travailliste au Royaume-Uni, arrivé au pouvoir en juillet dernier, la renationalisation des transports ferroviaires 30 ans après leur privatisation. 14 entreprises se partagent les lignes de chemin de fer. Ce dimanche marque la première étape du vaste projet de leur retour dans le giron public. Emeline Vin.
Le premier train renationalisé devait partir à 5h30 du matin ce dimanche de Woking, au sud-ouest de Londres, en direction de la gare de Waterloo. Mais il est remplacé par un bus en raison de travaux de maintenance, comme un symbole du réseau ferroviaire anglais privatisé depuis 1994 et célèbre pour ses retards et ses annulations. Ce sont ces problèmes de performance que le gouvernement espère résoudre avec son grand projet de renationalisation. Le nouvel opérateur public, Great British Railways, doit progressivement intégrer les 14 entreprises qui se partagent le réseau anglais au fur et à mesure des expirations de contrats. Deux entreprises doivent suivre Southwestern Railways cette année. Le processus doit durer jusqu'en 2027. Promesse de campagne travailliste, déjà en projet sous le gouvernement conservateur précédent, la renationalisation doit permettre des économies à hauteur de 3 milliards d'euros par an pour le contribuable, la simplification des voyages en train et d'encourager les investissements de long terme. Mais pour les voyageurs, pas de baisse de prix à attendre. Les billets ont augmenté de 5% cette année. Une hausse nécessaire selon la ministre des Transports pour mener à bien les investissements.
notre correspondante à Londres, Emeline Vin. Le temps aujourd'hui gris avec des pluies éparses sur une large moitié nord. Les éclaircies reviendront à l'arrière de cette perturbation sur la pointe bretonne en fin de matinée. Plus lumineux au sud même si le soleil est souvent voilé, des averses possibles sur les reliefs. Les températures maximales 17 à 24 degrés du nord-est au sud-ouest, 26 à 29 dans le sud-est.